Déjà, il y a un petit bouquin qui a été écrit et qui est très sympa, sur lequel le livre, le petit chapitre, il tire beaucoup, qui est de Olivier Meuli et qui s'appelle « Une histoire politique de la démocratie directe en Suisse ». Et qui revient sur les premières expériences d'assemblée communale. Ça, ça parlera peut-être aux municipalistes, qui en suisse allemand s'appellent les Landsgemeinde, et qui étaient des assemblées, alors là, suffrage exclusivement masculin, de jeunes qui avaient, je crois que c'était même, les personnes pouvaient voter à 14 ans. Et voilà, qui prenaient en commun des décisions avec des habitants qui pouvaient faire l'initiative d'un sujet, et puis en vote sur l'assemblée du village, avec des sessions, une session ordinaire une fois par an, et des sessions extraordinaires de façon régulière. Et je pense qu'une des choses qui est importante à souligner, c'est qu'ils se sont rendus compte, comment le RIC est né de ça, c'est qu'ils se sont rendus compte que ces assemblées communales, petit à petit, ont fini par être désertées par les personnes qui n'avaient pas le pouvoir. Donc petit à petit, on avait une élite qui s'était constituée, qui venait à chaque fois dans les assemblées, avec des gros problèmes de corruption, des gros problèmes de prise en main, en fait, capture du pouvoir par des gens qui étaient actifs, des gens qui avaient le temps, une aristocratie, etc. Même si on y reviendra, les communes suisses à l'époque étaient relativement égalitaires.
À quelle époque, justement?
Alors ça, on parle du XIIIe siècle.
XIIIe siècle,
les premiers... Les premières expériences, c'est 1230 dans les premiers cantons suisses. On en a en France à peu près à la même période. Mmh. Et ça rompt un peu avec, vous voyez, l'image du Moyen-Âge, de l'obscurité totale et absolue. En fait, il y avait déjà beaucoup de choses sur ces sujets.
En France aussi, non?
Ouais, dans le Pays Basque. Mmh. On appelait ça ante iglesia, devant l'église, puisque les gens se rassemblaient devant. Ça sera une expérience. Et effectivement, ça va donner lieu à pas mal de corruption, notamment dans les cantons suisses. Dans certains cantons, on va rétablir le tirage au sort pour permettre de retrouver un peu de contrôle sur ces assemblées-là. Donc ça vivote, hein, on va dire, 13e siècle jusqu'à la Révolution française. On a quand même toute cette période-là de ces assemblées qui se perdurent, les débats autour de la corruption... C'est une période quand même en Suisse où il y a la Suisse s'est constituée sur l'opposition au pouvoir impérial. En fait, c'était des territoires alpins qui ne voulaient pas payer leurs impôts. Ils ne voulaient pas payer l'impôt à l'Empire. Et qui, du coup, la Suisse se retrouvait un peu prise en étau avec grand jeu politique de l'Empire plutôt en Allemagne, les pouvoirs royaux en France, qui étaient dans des petites communautés qui leur permettaient quand même de résister, puisque c'était des communautés qui... produisaient très peu, c'est-à-dire franchement avec un parement de richesse que dalle, c'était très difficile de contrôle, s'il fallait monter dans les vallées alpines l'accès aux terres, et puis en plus pour des terres qui n'étaient pas très productives, c'était de l'agriculture de subsistance. En fait. Donc c'est ça qui a expliqué aussi qu'on a laissé, on les a laissés s'auto-administrer un long moment, c'est que très clairement ces vallées elles n'intéressaient personne. Elles étaient antécédentes à l'Assemblée, mais la révolte, en fait, ça leur a permis d'avoir aussi des... petit à petit, on commence par gérer les pâturages, etc. Puis les sujets ont commencé par être des sujets extrêmement chauds et qui ont fait que, du coup, en 10 ans, on n'a pas envie d'être dirigé par d'autres.
Le fait qu'ils avaient eu cette expérience, c'est un fait que... je voulais dire, c'est un fait que la révolte fiscale a été associée à une revendication précise.
D'accord.
Alors que dans plein d'endroits, il y a une révolte fiscale, mais sans revendication qui aboutit. Donc c'est pour ça que, par exemple, ici, quand il y a une revendication du RIC qui sort de la révolte fiscale, c'est un truc typiquement qui ressemble à ce qui s'est passé en Suisse. Parce que c'était d'abord une revendication fiscale, et puis il y a eu le souvenir des...
Là, tu avances un peu dans l'histoire.
Oui, bon.
Mais c'est pas grave.
Alors on revient à la Suisse, aux constitutions des assemblées au Moyen-Âge.
Ouais. Mais je vais juste. On va vite refaire un lien. Et il y a eu la Révolution française, et on ne le sait pas très bien, mais la France a récupéré une grosse partie du contrôle de la Suisse et a imposé une modalité républicaine d'organisation du pouvoir. À l'époque où c'était beaucoup de territoires qui coopéraient entre eux, mais très autonomes. Et du coup, la Suisse a vécu le fait de devoir avoir un système d'organisation républicain, un système où les pouvoirs se centralisent, c'est-à-dire il y a des les pouvoirs repartent au centre des cantons. Et là, ça va alimenter, il va y avoir petit à petit, ça va devenir, les assemblées communales vont devenir quelque chose de super mythifié. C'est-à-dire le retour à des façons de décider en commun, ce que disait Raoul en fait. C'est-à-dire que ce souvenir-là va réactiver le fait qu'on veut s'auto-administrer tout seul, on veut récupérer le pouvoir.
Mais le lien avec la corruption, qu'est-ce qui était le moteur de la corruption et à quel moment est-elle parue? C'était le pouvoir, les pouvoirs de l'argent.
C'était le fait qu'en fait, petit à petit, les personnes qui ont peuplé ces assemblées, c'était des élites. Et qui gérait des ressources, parce qu'elle gérait quand même la question, c'est des choses qui peuvent paraître un peu, enfin peut-être pas ici parce qu'il y a quand même un lien avec la montagne, mais la question de l'établissement des pâturages, qui avait le droit d'avoir accès à quelle terre. Donc petit à petit ils ont commencé à se diriger comme une élite corrompue, qui achetait des clientèles, qui se servait au passage, qui prélevait une partie des stocks alimentaires, etc. Et ça c'est venu en fait du fait que petit à petit ces assemblées se sont... c'était coûteux quoi.
Est-ce que vous pourriez préciser justement les modalités, comment elles s'organisaient, ces assemblées, et le lien entre ceux qui votaient et ceux qui étaient élus, comment ils ont pu s'émanciper?
Donc c'était des assemblées qui rassemblaient tous les hommes à partir de, selon les villages, 14-16 ans, qui avaient lieu de façon ordinaire une fois par an, qui traitaient tous les sujets mis à l'agenda, et en fait, l'assemblée pouvait dénoncer les pouvoirs donnés aux... qui prenaient des noms différents, mais à la personne qui gérait un peu le village... Alors, ça prenait des noms un peu différents, selon que c'était un aristo, en fait, c'était quelqu'un qui était un propriétaire terrien. Mais l'assemblée pouvait le faire sauter. Donc,
d'accord, prévocatoire. Les...
Ouais, elle pouvait faire sauter ça. Et en fait, chaque
mais
point
aussi
à l'agenda.
C'est-à-dire qu'on pouvait porter des décisions collectives qui étaient votées sur la place publique à main levée.
Et on a ça dans encore quelques cantons suisses. Hein. On a... C'est à peine à l'heure, je crois, où vous avez encore les photos des habitants qui votent à main levée. Dans les petites communautés rurales, ça se faisait encore, le rite en fait est un moment où notamment... on avait la même chose aux États-Unis hein. À peu près ça s'appelait les town meetings à l'époque, et c'était aussi des assemblées communales qui décidaient des affaires courantes à main levée, même procédure de vote, etc.
Dans le nord-ouest des États-Unis,
ouais.
Vous avez dit.
Ouais, ouais.
En fait, enfin, les
temps
de signes, c'était dans l'est.
Ça, c'est
alors que paradoxalement,
le
RIC dans l'est, c'est pas développé, et dans l'ouest.
Ça, c'est super intéressant. C'est un cas. Souvent, on dit les assemblées, c'est le début de la démocratie directe. En fait, ce qu'on observe, c'est qu'il n'y a pas de régularité. Parce qu'aux États-Unis, ils ont eu les town meetings jusqu'à très très tard. Ils n'ont jamais basculé sur le RIC. Jamais. On l'explique, dans le bouquin, on l'explique, l'hypothèse qu'on fait de ça. C'est qu'en fait, le pouvoir industriel s'est aussi concentré dans l'Est des États-Unis avec les grosses villes, Chicago, New York, les gros ports, a créé une élite économique qui, en fait, n'a jamais lâché sur la question du RIC. Alors qu'à l'Ouest, ils entraient tout juste dans la Confédération, ils avaient besoin de soutien populaire, c'était beaucoup des travailleurs, en fait, qui travaillaient dans le chemin de fer, etc. Et qui ont repris...
Est-ce que tu pourrais revenir sur maintenant l'étape de la révolution et comment ça s'est ce souvenir s'est ramené et comment ça s'est mis en place concrètement?
Ce qui était sympa, ce qui est peut-être un peu paradoxal, c'est qu'à l'époque, donc quand il y a eu reprise en main un peu République française, à l'époque la Suisse n'était pas neutre hein, parce que les mercenaires suisses, en fait, il y avait une armée mercenariale qui partait. Alimenter l'Empire, alors un coup en France, un coup... Ils avaient passé une alliance assez proche de famille avec la Russie. Donc souvent, la neutralité suisse, on pense que c'est avant le RIC, mais c'est tard, c'est plus tard, quoi. Et ça a été très très mal vécu, en fait, par les Suisses, l'idée de... En Suisse, l'expérience, on va dire, fédérale, c'est beaucoup d'autonomie aux villes, plus le RIC... a fait qu'un pouvoir très centralisé avec une constitution qui est décidée au niveau des assemblées entre les cantons, un pouvoir qui est retiré aux gens, va en fait très vite donner lieu à des contestations, et des contestations d'ordre insurrectionnel. Et là, va être réactivé un peu le mythe de la Landsgemeinde 2 sous l'action de deux groupes. La première, c'était vraiment les personnes qui étaient favorables à la démocratie. Et l'autre, c'était à l'époque, c'était les libéraux. Qui commençaient à pousser pour ça, et plus dans l'idée d'avoir un contre-pouvoir, et les romantiques, c'est-à-dire les écrivains romantiques, qui disait il y a un retour à nos traditions alpines, il faut retrouver l'importance de la vie dans le groupe, l'importance de notre identité montagnarde. Donc ces deux en fait mouvements avec des agendas politiques très différents ont contribué à rappeler ce souvenir-là. Et on avait dans les places en fait des gens qui des rassemblements populaires. Alors dans certains cantons, il y a des histoires rigolotes menées par exemple par le boucher du coin, qu'on qualifiait à l'époque de populiste, qui se mettait sur la place du village et scandait « Nous voulons décider » au sein de la Landsgemeinde. Et ça va en fait essaimer en Suisse parce que certains cantons vont la remettre en place sous l'effet de la pression. Et petit à petit, ça va, en fait, le fait que ce soit remis en place dans un canton va rendre jaloux un peu les autres cantons qui vont aussi se rebeller. Et ça va brûler jusqu'à ce qui s'appelle la restauration. On est dans l'histoire suisse, c'est début 1800. Où là, du coup, la réflexion est plus seulement sur les assemblées populaires, mais sur quelle mécanique on se donne pour que ce droit-là, il soit inscrit quelque part et qu'on ne puisse plus jamais revenir dessus. Et ça va commencer par le référendum obligatoire. En fait, les cantons vont se donner une constitution. Donc, les assemblées vont produire une constitution. À l'époque, l'Orique, c'était pas l'initiative. Et on va faire valider ces constitutions par le peuple et assortir à ces constitutions une disposition de changement sur l'initiative populaire. À l'époque, ce qu'on a un peu oublié, c'est qu'en 1791, dans la constituance de 1791, aux côtés des Robespierre, des Condorcet, des enragés, l'hypothèse, c'était une hypothèse de démocratie directe. Alors les modalités, aujourd'hui, elles étaient compliquées, hein, c'était compliqué, mais va s'affronter en fait deux conceptions. Une première qui est issue de la Révolution américaine, où la Révolution américaine... gouvernement représentatif va gagner avec la peur que les pauvres spolient les riches. Et en France, la première constitution qui devait être appliquée, qui avait réussi à être arrachée, était une constitution avec de forts éléments de démocratie directe, dont on va interrompre l'application au moment du début de la Terreur, parce que la France était vraiment au bord de la guerre civile avec les puissances royales à l'extérieur qui jouaient un jeu de déstabilisation. Et elle devait être, le plan initial était qu'elle soit réappliquée au sortir, à partir du moment où la paix revenait, le papier qui devait être appliqué, c'était la constitution de 1791. Et en fait, elle ne gagnera jamais parce que les libéraux vont faire un projet concurrent, et qui est un projet purement représentatif, où en fait, il n'y a plus du tout de dispositif de démocratie directe dans cette constitution.
Et en plus, il y a du suffrage censitaire.
Et il y a du suffrage censitaire.
C'est ce dont parle, je crois, Serge Averdam, peut-être vous connaissez, de la Société d'études robespierristes.
Ouais.
Et est-ce que, si vous pourriez développer, quels sont ces dispositifs, justement ? Est-ce que la loi ne doit pas redescendre dans les communautés locales pour être approuvée ? Et si elle n'est pas approuvée, c'est quelque chose comme ça ?
Oui, en fait, ils sont initiés dans les collectivités locales, sauf que c'est un système par assemblée. Mm-hmm. L'assemblée qui va faire une proposition, comment ça marche?
C'est
assemblée au niveau des cantons, c'est ça?
Non, c'est. Alors, en France, l'idée c'était que. Donc, tu avais des assemblées de type, on va dire, départementale, grosso modo aujourd'hui. Elles pouvaient demander à l'Assemblée nationale d'être saisie d'une question. L'Assemblée nationale devait examiner la question. L'Assemblée départementale. Proposer que la question soit examinée, puis aller chercher du soutien d'autres assemblées départementales. Vous voyez, c'était pas une assemblée départementale tout seul, il fallait qu'après ils aillent chercher de l'appui. S'ils obtenaient l'appui, l'Assemblée nationale devait examiner la question dans le sens l'accepter. Si elle ne l'acceptait pas, il y avait dissolution. C'est-à-dire, il y avait.
Dissolution de l'Assemblée nationale.
Ouais.
Donc un vrai contrôle à partir du local.
En fait.
Oui, c'était très conçu pour partir de l'individu jusqu'au pouvoir central. L'individu qui influence son assemblée qui pose la question aux autres assemblées locales, qui doivent répondre oui ou non. Et s'il y a suffisamment de oui, alors je ne me souviens pas les détails, c'est au niveau de l'Assemblée nationale centrale où il se passe cette procédure.
Il y avait des trucs assez géniaux.
Mais Robespierre était favorable
ça. On avait cité son discours dans le bouquin où il dénonçait souvent à l'Assemblée l'indépendance absolue où les représentants se sont mis à l'égard de la nation. C'était l'idée de dire il faut à chaque moment que les personnes...
Si tu veux le citer, c'est volontiers.
C'est cette phrase, en fait. En fait, on l'a coupé, mais la phrase, c'est l'indépendance absolue, critique de l'indépendance absolue où les représentants se sont mis à l'égard de la nation, et c'est le discours du 29 juillet 1792.
Et il y a aussi Condorcet. Parce qu'à l'époque, elle s'était posée la même question. Alors, les gens qui étaient hostiles à cette constitution et à la démocratie directe disaient, oui, mais les gens ne sont pas prêts, ils n'ont pas, on doit les former, on doit discuter dans des assemblées. Toujours le même.
C'est pour ça que c'est important de revenir dessus, la genèse.
Et là, Condorcet dit...
Quand il disait sur le vote, il disait le vote sur l'initiative. Donc, il reconnaissait, il disait pour perfectionner les lois, comme c'est un processus d'essai-erreur, il faut que chacun puisse avoir la possibilité de proposer une nouvelle loi, on en débat, et puis voilà. Et lui, il disait, les mécanismes doivent être les suivants. Le vote sur l'initiative doit être très simple, et les questions doivent être, je cite, « posées de manière à être résolues par une simple affirmation ou un simple refus d'affirmation. » C'est oui, le fameux « oui-non ». Et après, il dit, se poser la question, est-ce qu'il faut confier la décision à des décideurs qui sont compétents? Et lui, il dit... il n'est point nécessaire, pour décider en connaissance de cause, d'avoir lu ou entendu sur chaque objet ce que les hommes chargés de cette même décision ont pu penser. Il suffit que l'on ait eu le temps d'examiner les questions en silence ou de les discuter librement dans les sociétés privées.
Donc, les sociétés privées, c'est en grand nous dans cette...
les clubs, etc.
Le mec était vraiment... Après, son dispositif était assez complexe, il proposait, mais...
Il marcherait... En fait, le RIC, comme on l'entend aujourd'hui, c'est une version simplifiée mais perfectionnée de ce qu'avait pensé Condorcet. C'est-à-dire son système marche... si on le mettait en place, ça serait compliqué.
Il faut garder aussi en mémoire que ce n'était pas le suffrage universel à l'époque. C'était ce que certains qui pouvaient...
Si, à
92.
Et la constitution de 91,
aussi.
Pas universel,
masculin.
Mais il n'y avait pas censitaire. Pas de question de
présidence. Que les libéraux avaient dit qu'il faut que la...
C'était vraiment universel, la censitaire et les autres.
Il y avait les limites de mandat à un an, un référendum constitutionnel obligatoire, une forme de référendum abrogatif sur les lois et les impôts, donc la possibilité de le faire, et une sorte de RIC dont on en a parlé en matière constitutionnelle.
Et révocatoire aussi ou pas ? Du coup, en Suisse, vous disiez hier qu'il y avait la suite après la Restauration, comment ça finit par se mettre en place au 19e siècle, le RIC tel qu'on le connaît ? C'était objet de lutte pendant longtemps, du coup, pendant plus de siècles.
Ça a commencé... Alors, ce qui est très marrant, c'était que après la fin de la période républicaine, déjà à l'époque en Suisse, et là ça fait marrer quand on y repense, les libéraux disaient mais la Suisse c'est trop grand en fait pour faire de la démocratie directe. Il faut des plus petites communautés. Alors nous maintenant, enfin, c'est toujours renvoyé. Y a des débats sur toutes les places publiques en Suisse entre 1803 et 1830. On voit un peu fleurir dans les places publiques. En fait, les gens se réapproprient. Le premier pas qui a été fait, c'était de dire ils ne veulent pas nous laisser décider, mais on va le faire nous-mêmes. Donc ils se sont mis à réoccuper un peu les places, les assemblées communales, en réclamant du coup l'idée de décider en commun, en fait, et décider sous la forme du RIC. Y a un petit mouvement populiste en 1830, parce qu'on les qualifiait de populistes, qui s'appelait les Hommes du Peuple, et qui s'opposait à l'époque aux libéraux, qui eux disaient non, la démocratie directe c'est dangereux pour les droits, et ces Hommes du Peuple étaient ceux qui, en fait, ils ont filé des fourches à la population pour dire, vous mettez sur la place publique. Il y avait de la démonstration de force importante et parfois des cas où il y a eu répression violente de l'insurrection, quoi. Et ça fleurit un peu partout en Suisse, plutôt de façon...
C'est en France aussi, d'ailleurs, parce que presque toute l'Europe a eu les révoltes de 1830 et de 48. La différence, c'est qu'en Suisse, il y a eu, mais leur demande était l'intervention directe. Alors que chez nous, c'était revenir à la République avec suffrage universel. Il n'y a jamais eu du fait qu'ils avaient cet héritage-là.
En Suisse, il y avait cette mémoire de ce qui s'était passé au XIIIe siècle.
Du XIIIe, et entre-temps, pendant la Révolution française, nous l'avons pu... Donc, ça a été... En fait, alors qu'en France, même avec la Constitution de 91... C'était pas rentré dans la... C'était quand même des élites, Condorcet, le mathématicien qui avait imaginé ça, mais c'était pas rentré dans les villages, dans les villes. Donc, c'était pas une revendication qui était courante. Donc la Suisse, en fait, officiellement, c'est en 1848 qu'elle a obtenu cette...
Sous la pression des hommes du peuple, c'est ça l'idée?
En fait, les libéraux vont lâcher parce que c'est l'époque où, donc fin de la période républicaine, il faut refaire des constitutions cantonales, comme on dirait la constitution de l'Aveyron. Et à l'époque, les libéraux disent, on va écrire une constitution et puis voilà. Et c'est là que les mouvements populistes de l'époque descendent armés, en fait les paysans descendent sur la place du village et réclament le droit de décider en matière constitutionnelle. Et là, les libéraux vont leur concéder ce qu'ils appellent le droit de veto, qui est en fait le référendum obligatoire à l'époque, c'est-à-dire faire voter par les gens la constitution et à sortir d'une procédure où un groupe d'individus peuvent s'opposer à la mise en place d'une décision. C'est plutôt le type abrogatif. La procédure est très complexe, il y a beaucoup de freins, un taux de soutien extrêmement élevé pour être passée, mais elle se met en place dans plusieurs cantons, dans le canton de Bâle, dans le canton de Saint-Gall à l'époque, et là ça ouvre la voie à une plus forte intervention populaire dans la crise.
1840.
Les premières, c'est
1848, comme en France.
1830, le veto.
1830 le veto, donc sous la pression populaire, parce qu'en fait tous les cantons étaient concernés par cette révolte des hommes du peuple, qui avait duré longtemps, qui durait depuis combien de temps?
Qui avait commencé, c'est une période, 1800, la période un peu, un débat plus insurrection, c'est 1803-1830.
Mais c'est pas, mais pas tout, c'est pas au niveau fédéral, hein.
C'est par canton, hein. Ça explose.
48, c'est au niveau fédéral, toute la Suisse, c'est monté jusqu'au haut.
En lien avec ce qui s'est passé en France ou pas, à la même époque?
Ce qui s'est passé partout en fait, c'est pas qu'en France.
Ouais, c'était des demandes populaires avant 1848.
D'accord. Des révoltes.
Des révoltes pour avoir plus de droits et qui vont en fait, dans le cas suisse, ce qui est intéressant, c'est que comme c'est très fédéral avec chaque canton qui s'auto-administre, comme si dans l'Aveyron on obtient un droit, à côté il y a de fortes chances que les autres disent et nous? Pourquoi on ne peut pas l'avoir? C'est comme ça que ça s'est passé. Il y a eu aussi... C'est pas tous les cantons qui sont enflammés d'un coup. Il y a eu un mouvement qui a commencé, Bâle, Saint-Gall. En fait, souvent dans des cantons qui étaient déjà très divisés. Donc le canton de Bâle, je sais pas si... Il y a un canton de... Jusqu'à très longtemps, il y avait Bâle-Ville et Bâle-Campagne. Donc il y avait une opposition entre les territoires ruraux et les territoires urbains. Et à un moment, concéder le veto ou concéder l'initiative, c'était une façon de conserver en fait la collectivité, quoi. Et dans le Valais, ça va être la même chose. Il y a les francophones et les germanophones qui se mettaient sur la gueule. Aussi, distinction rurale-urbain. Et là, on va lâcher le RIC pour dire, c'est une façon aussi de gérer collectivement notre...
Mais d'ailleurs, le RIC qui est lâché, comme disait Clara hier, c'est pas super, hein. Là, il s'est passé une chose dans le temps, c'est qu'à l'époque, c'était le premier RIC qui est mis en place. Les signatures étaient 50 000. Et que, donc, c'était un RIC à 10% de la population. Mm-hmm. Comme on a dit, c'est où? Et c'est pour ça qu'il y a eu très peu. Quand on voit l'histoire des RIC, maintenant c'est tout le temps, mais là, il y en avait quelques-uns en 50 ans. Et en fait, la population suisse s'est reproduite, a augmenté très vite, alors que le seuil était toujours 50 000. Donc, en 91, c'est passé à 100 000, mais entre-temps, la population était 10 fois plus. Donc maintenant, c'est ce seuil-là du 19e siècle qui n'a pas bougé et que ça équivaut désormais à 2% de la population.
Et pour rester sur le 19e, est-ce qu'il y a eu des tentatives de remise en cause? Enfin, quels étaient les arguments? Comment ça s'est fait?
Ça a été dur d'être arraché, mais une fois que ça a été arraché, c'était plus jamais... En fait, c'était vraiment... Quand on a un peu retracé l'histoire, ça montre que quand les gens ont fait l'expérience, et je pense que l'exemple des communautés au XIIIe siècle, c'est ça. Quand il y a dans l'histoire une référence à des modes de décision de type direct, en fait, les gens le conservent. Et là, quand ça a été lâché, le veto a été lâché. Puis après, petit à petit, ça a été au niveau fédéral. Le fédéral en Suisse était opposé. Les radicaux suisses étaient opposés à l'idée d'une démocratie directe au niveau fédéral. Et ils ont résisté. Mais en fait, la pression par le bas a fait qu'à un moment donné, c'était plus tenable. Les cantons avaient des processus de démocratie directe.
Quels étaient leurs
arguments? C'est un peu comme le suffrage universel, là encore. Ce type de droit politique, hormis quand il y a l'armée, une invasion, etc., une fois qu'ils sont là, ils ne partent pas, en fait. Et ce qui est frappant, c'est que, par exemple, le RIC, quand tu prends des gens hyper riches qui pourraient gagner à ne pas l'avoir, avoir un système élitiste, ben, non seulement ils ne contestent pas le RIC, mais ils n'osent même pas dire qu'il faudrait un seuil de signature plus haut. C'est hyper politiquement correct de dire ça.
Actuellement
en Suisse. Et aux États-Unis, par exemple.
Et quels étaient les arguments des libéraux pour essayer de le remettre?
C'est trop dangereux, c'est dangereux.
Mais au début, droits...
au 19e, par exemple.
Ouais, au 19e, il y avait la Suisse est trop grand, il y avait l'idée que l'intervention populaire, il y avait un risque d'oppression des minorités. D'accord. Et en Suisse, ça se posait quand même très clairement, parce que de façon linguistique, que le peuple n'est pas assez éduqué pour participer en matière. Il doit confier à ses représentants. C'était à peu près ça. Hein. Et puis il y avait à l'époque les écrits, on en a cité quelques-uns, et les écrits des libéraux, notamment à la révolte de Genève, et Genève était quand même un haut lieu où il y avait pas mal d'intellectuels qui s'étaient installés. Les propos tenus sur le peuple sont atroces.
Vous avez quelques exemples, je veux bien justement
Pas plein hein, comme ça, mais. Donc 1848, donc c'était Jacob Burckhardt.
Mais ça c'est suffrage universel.
Non, ça c'était Rick en Suisse, qui vivait en Suisse, et il disait l'atmosphère en Suisse est devenue de fait si brutale, si répugnante qu'elle m'empoisonne la vie. Et parce que il y avait le bordel, tout le monde avec les fourches. Le beau mot liberté sonne clair et plein. Mais ne devrait se permettre d'en parler que celui qui a vu de ses yeux ce qu'est l'esclavage sous la férule de cette masse de braillards qu'on appelle le peuple. Donc, tyrannie de la majorité, attention, il va tous nous...
Et on en avait des tonnes de propos sur les côtés c'est Dieu...
Je connais trop l'histoire pour attendre du despotisme de la masse autre chose que l'avènement d'une tyrannie. Au demeurant, 1848, en plus, après, le pays plus pacifique du monde, aujourd'hui, on voit les Suisses comme des gens hyper polis, pas de conflit, mais lui, il imaginait que par la suite, il y aurait eu un despotisme de la masse.
Pour appuyer un peu sur ces hommes du peuple, concrètement, ça a duré des décennies, si j'ai bien compris, en Suisse, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est-à-dire qu'ils ont repris des municipalités, ils ont pu décider concrètement, localement, à certains endroits, dans certains cantons.
Ils ont commencé.
Ils ont juste fait une pression populaire.
Comme aux États, ils ont fait beaucoup de pression populaire, parce que c'était pas. En fait, ils n'étaient pas forcément constitués en parti. Mais à l'époque où il est début 1800, des grosses tensions, c'est donc les libéraux qui sont au pouvoir et poussent les partis radicaux. Et par contre, les partis radicaux, dans beaucoup de cantons, même s'ils ne le feront pas, c'est ça qui est hyper marrant avec le RIC, ils étaient dans l'opposition et ils vont aller chercher les populistes. Ils vont dire, ok, les mecs, si on veut renverser les libéraux, il faut qu'on se mette ensemble et nous, on vous concédera. Et ils le font. Au niveau cantonal, ils le font. Mais quand ils sont élus à la Chambre, au fédéral, ils ne le font plus. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que quand ils vont être majoritaires dans le pays, en fait, les radicaux vont dire, non, au niveau fédéral...
Il y a quelque chose, juste pour... parce que je vois que tu as en tête... le parallèle avec la France, qui a quand même un obstacle en France objectif qu'il n'y avait pas en Suisse ni aux États-Unis, qu'il faut prendre en compte, mais ce n'est pas pour être pessimiste, hein, c'est que la Suisse, déjà maintenant, mais à l'époque encore plus, avait une structure très, très confédérale même. Ouais. C'est-à-dire que chaque canton avait des compétences énormes et pouvait même, et à l'époque, le fait qu'un canton sorte, c'est possible. C'est-à-dire que c'était conçu comme des pays. Aux États-Unis, c'était pareil. C'était l'Union, les pays de l'Ouest sont rentrés en dernier, sont rentrés en disant, attention, on a notre constitution, notre pays, notre démocratie, on sort si vous nous faites chier. Ouais. Et ça, c'était quelque chose dans les deux, ce qui fait que prendre un canton, c'était pas du tout pareil que prendre une ville ou un département.
Non, c'est pas ça. Tu prenais un canton, tu décidais de ta constitution. En fait, il l'explique bien, ce qu'ils avaient en commun, les Suisses à l'époque, c'est la crainte des envahisseurs royaux, des gros pouvoirs, la France, l'Allemagne, qui convoitaient un peu, mais un petit peu, quoi. Enfin, mais c'était ça, le but, c'était de se mettre ensemble face à une menace extérieure, mais chacun s'administrait comme il le souhaitait. Il va y avoir des scissions de canton, Bâle-Ville va être un canton face à Bâle-Campagne.
Donc les radicaux se sont ralliés à cette idée de donner plus de pouvoir pour homogénéiser les gens derrière leur, leur volonté de...
Oui. Et les catholiques vont le défendre dans les cantons où il y a des partis catholiques et une très forte minorité catholique. Les catholiques vont devenir des défenseurs acharnés de la démocratie directe au moment où ils n'avaient pas le pouvoir. En disant, t'as ces radicaux qui défendent une forme d'athéisme, c'est dégueulasse, on ne prend pas au sérieux. Et les catholiques vont aussi se rapprocher des mouvements populaires pour dire, il faut demander absolument le RIC, quoi. Il faut qu'on puisse... On le voit, en fait, le petit tour des mouvements qu'on a fait, c'est que quand t'as pas le pouvoir, t'es un très fort défenseur de la démocratie directe, et quand tu l'as, tu dis, ah bah merde, ouais, en fait, les gens sont pas d'accord avec moi, en fait. Donc, il faudrait peut-être faire attention, parce que, voilà, il faut recontrôler plus.
D'ailleurs, est-ce que je peux... si on peut faire continuer sur le parallèle, il y a un autre truc qui change un peu, qui donne l'avantage à la France, mais que... La Suisse, comme on disait tout à l'heure, le RIC qui a été mis en place, il fallait être patient, quoi, parce qu'ils l'ont eu en 48, mais maintenant on n'a pas le référendum, mais ceux qui l'ont obtenu en 48, de leur vivant, ils ont vécu au niveau fédéral un référendum.
Ils en ont fait des tentatives en plus.
Voilà. Donc, on a une situation dans laquelle, au début, quand il a été accepté, il était nul, ce RIC. Il était concédé. Mais juste comme c'est il y a plus de 150 ans, avec le temps, il n'a cessé de s'auto-alimenter pour devenir quelque chose qui, maintenant, il va tous les 3 mois. Donc, en fait, au moment où on l'arrache, il est nul. Et je peux imaginer que les gens qui veulent le RIC ici, ils n'ont pas cette patience d'attendre 150 ans.
Peut-être sans transition, revenir sur le RIC, est-ce qu'il favorise l'avancée des droits sociaux ?
Alors,
puisque c'était une crainte des libéraux de dire que ça va enlever le droit des minorités, etc.
Oui, alors,
etc.
Là, on a un chapitre sur les décisions célèbres sur le RIC. Il faut savoir que le RIC, ce qui est bien, c'est qu'il empêche que sa vie, que des changements sociaux qui virent à l'autoritarisme. Mais c'est pas un instrument de gain des droits sociaux, mais c'est pas un instrument contre non plus. Alors souvent, par exemple, je te prends un exemple, après je te donnerai une liste, hein. Je peux te la donner tout de suite si ça t'intéresse, une liste.
Je pense qu'il faut quand même en préalable distinguer deux choses. Il y a les grandes décisions, et on peut discuter de façon anecdotique. En fait, il y a autant d'exemples de RIC qui vont dans des mouvements très progressistes. Vote des femmes, 1893 au Colorado.
Oui, vous voulez faire l'exemple un peu plus...
Et je te donne après tous les exemples. 1893 au Colorado, le premier état à l'avoir donné, c'est la Nouvelle-Zélande. Donc on peut parler... Il y a deux questions là-dessus. Il y a les exemples et les moments où le RIC a produit des avancées ou des reculades. Et les effets quand on compare un peu plus toutes les décisions prises sur ces questions. Il faut juste... faire attention sur ces aspects-là.
Par exemple, si je prends quelques exemples, on a journée de 8 heures de travail votée par RIC au Colorado 1912, abolition du travail des enfants 1914 votée en Arizona et Arkansas, pension de retraite en 1914 également, des choses qu'on a eues beaucoup plus tard. Les Suisses ont refusé de donner les pouvoirs aux militaires pendant la Seconde Guerre mondiale en situation d'urgence. Ça, c'est une histoire d'ailleurs assez incroyable, parce qu'il y avait un projet d'invasion, l'opération Temenbar des Allemands, après avoir pris la Pologne. Ils ne l'ont pas fait parce que tout le monde
était en guerre. C'est la dernière guerre.
L'idée, c'est envahir la Suisse. Et la Suisse a une conscription à l'époque où tout le monde avait ses fusils, etc. Mais son armée est très égalitaire, si bien qu'il n'y a pas de généraux. Et on prévoit que... un général, on choisit un général seulement en temps de guerre. Et donc là, il y avait cette opération qui était dans l'air. Donc pour la prévoir, ils ont nommé un général qui était francophone d'ailleurs, et qui est arrivé, il a dit, je propose, on va faire 3 choses. La première, on va moderniser les armes et distribuer à la population. Ce qui, comme je disais hier, c'est assez rare, parce que distribuer à la population, tu risques une révolte contre toi en fait. Donc ça, c'est quelque chose, c'est Périclès en Athènes qui disait, nous, au moins, on peut donner des armes à tout le monde, toute façon, tout le monde va défendre Athènes et ne va pas essayer de tirer sur le régime. Là, en Suisse, il y a ça. Deuxième chose, il disait, on va créer une ligne montagneuse que dès que les Allemands attaquent, on se met tous sur cette ligne, on abandonne Zurich, Bâle, toutes les villes du nord, on se met sur la ligne. Et troisième, on va donner plus de pouvoir aux militaires. Et là, les Suisses ont dit, oh, cette troisième-là, ne plaît pas. Référendum abrogatif, vote, 1940, sous la menace, pas de pouvoir aux militaires. Donc, c'est quand même incroyable, ce type d'histoire, parce que ne serait-ce que cette décision aurait changé, après, les équilibres politiques pour plusieurs années.
Les bonus, interdiction des rémunérations abusives dans les conseils d'administration, 2008 ou 2009, si ma mémoire est bonne, par initiative populaire. Sortie du nucléaire, par initiative populaire.
Voilà, hier, je vous ai raconté, en Italie, il y a eu...
Qui fixe le seuil entre ce qui est abus?
Bah, l'initiative propose du coup ce que représente en termes de pourcentage de. En fait, c'est les rémunérations abusives, par exemple les parachutes dorés. Ça cible beaucoup les parachutes dorés, les rémunérations
abusives.
Il y a toute une liste de mesures et c'est les porteurs de la pétition qui ont proposé.
Est-ce qu'il y a un lien à faire entre les avancées que permet l'ERIC en termes de droits sociaux, les exemples que tu as donnés? Et je ne connais pas la situation suisse, mais l'absence de mouvement syndical.
Oui.
Et qui remplace, le RIC remplace en fait les mobilisations syndicales qu'il y a eu dans d'autres pays, comme oui. En France, et les avancées qui ont pu s'obtenir d'autres manières, mais pas par le biais du RIC. Est-ce qu'il y a un lien à faire entre oui. les pays qui utilisent le RIC, États-Unis, Colorado, mouvement syndical très bas, Suisse peut-être aussi, oui. et du coup ils mettent le RIC à la place.
Oui.
Mettre en avancée le droit des individus en tant que citoyens politiques.
Alors là, il y a aussi une distinction entre États-Unis, Europe
et Suisse.
Et Europe en général. Donc la tradition syndicale en Europe est plus forte. Mmh. Mais il est vrai que ce que tu as raison, c'est que ça renforce tous les tissus associatifs. Donc dans ces systèmes très européens, sortis de la guerre autour, même en France par exemple, mmh. les syndicats ont très peu de syndiqués.
À quelle guerre là?
En France, aujourd'hui.
Ah, aujourd'hui, oui.
On parlait de baisser. Mais les syndicats sont maintenus comme les partenaires sociaux officiels. C'est quelque chose qui se nourrit plus par la reconnaissance, par le haut, que par le tissu, le syndiqué. Pourquoi? Parce qu'effectivement, les syndicats ont peu d'impact. Il y a d'autres pays européens, comme l'Autriche ou le Danemark, dans lesquels les syndicats ont un impact très très gros. Sur les politiques, donc sur les politiques sociales, donc ils ont beaucoup, beaucoup de militants. Mais ils monopolisent cette offre-là de défense des droits. Alors qu'en Suisse, il y a plein d'associations qui se créent parce qu'on n'a pas besoin d'être beaucoup pour lancer une initiative. Donc, il se crée cette situation dans laquelle les gens sont moins concentrés sur quelques syndicats, mais ils sont tous affiliés à des associations diverses.
Oui. Je peux dire un truc là-dessus, puisque c'est vrai qu'il y a une question. Il y a deux choses qui sont importantes, c'est de toujours comparer. C'est-à-dire de comparer la temporalité des décisions et ce qui se passe ailleurs. Parce que si tu regardes juste et tu dis, bon, le RIC, telle décision, elle va plutôt dans un sens progressiste, telle décision dans un sens réactionnaire. L'idée, c'est de dire, d'autres régimes, en fait, ça va dans quel sens ailleurs? Est-ce que, en fait, la décision, elle est pas plus en avance dans le rythme, mais pas plus réactionnaire non plus. Elle est juste dans l'air à un moment donné. Typiquement, la question de la peine de mort, la plupart des études sont faites à un moment où en Europe, il y a encore la peine de mort. Ça se fait à un moment où la France n'est pas particulièrement en avance sur ces questions, alors qu'il y a des États avec le rythme qui l'ont. Et un des exemples là-dessus, c'est la question et qui est un exemple moi, qui me faisait bondir dans les médias, c'est le référendum sur la question des minarets, l'interdiction des minarets. Parce que c'est souvent celui qui est donné pour dire ça écrase la minorité, etc. En fait, le référendum portait, et c'est important de faire la distinction, c'est vrai que c'est un référendum qui est stigmatisant, c'est vrai. Mais il portait pas sur la question de la construction des mosquées, il portait vraiment sur la construction des minarets, c'est-à-dire est-ce qu'on veut avoir en Suisse un muezzin qui chante, qui appelle à la prière 5 fois par jour. Et les Suisses ont dit, c'est le bordel, quoi. Enfin, vraiment, la discussion s'est faite sur avoir un gars qui chante 5 fois par jour, dont 5 heures du mat parfois, plutôt pas. Dans le même temps, en France, on a du blocage massif de construction de mosquées. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas de mosquées. C'est-à-dire qu'on avait des gymnases par-ci, parfois dehors, parce qu'en fait, il n'y a pas d'accès à un lieu de culte. Et on avait des lois aussi très stigmatisantes, du type loi sur le voile, interdiction d'accès avec un certain... Voilà, interdiction des ports religieux qui ciblait, alors de façon peut-être plus hypocrite, mais la loi sur le port religieux ciblait très clairement l'islam et les minorités musulmanes en France. Donc si on compare, moi si tu veux, la question sur les minarets, elle me choque pas plus, elle me choque même moins que la politique menée en France qui est d'interdire l'accès, ce que tu n'as pas en Suisse. Alors c'est mis à l'agenda. Hein. Ensuite, effectivement, il y a une discussion sur, en ce moment, il y a une discussion sur la laïcité.
Ouais.
Est-ce qu'en Suisse, on doit... mettre en place, donc il y a un débat d'initiative sur est-ce qu'il faut mettre une loi plus dure sur la laïcité telle qu'elle ne l'est, c'est-à-dire avec voilà, contrôler plus dans l'espace public le port de signes religieux, qui est porté, c'est vrai, par la droite identitaire, nationaliste, je ne sais pas si on peut dire identitaire, l'Union démocratique du centre, mais il faut toujours comparer, c'est-à-dire qu'on peut parler des décisions en tant que telles, pareil pour le droit à l'avortement. On constate par exemple, parce que...
En Irlande, ils l'ont obtenu.
Voilà, ils l'ont obtenu par le RIC en Irlande, et parfois... non, par référendum. Alors que parfois, franchement, les représentants, pour des raisons de clientèle électorale, ne voulaient pas le lâcher. Ce qu'on observe en Suisse, c'est que il y a deux choses. Il y a le droit à l'avortement en tant que tel, et il y a... qui est présent en Suisse, enfin, les personnes ont le droit à l'avortement, et les obstacles mis à la réalisation de ce droit, parce que souvent, la Suisse reste un pays où le droit à l'avortement est extrêmement protégé, avec un accès, des financements au centre IVG important. Donc il faut bien regarder, en fait, toute l'histoire.
En fait, juste une chose, la chose importante, c'est que le RIC n'est pas pour le changement social, n'est pas contre, n'est pas pour, c'est ce que dit Clara. C'est un instrument qui va protéger les droits des gens, et après, ça dépend ce que pensent les gens. Et un exemple typique, les gens qui sont contre disent, je reprends un qui est de classe, ils disent, ouais, mais quand même, en Suisse, le vote des femmes, c'est en 1971. Donc, 28 ans après la France. Alors, et au Colorado, il y a encore la peine de mort, 38 ans après l'abolition en France. Donc, c'est quand même réactionnaire. Oui, maintenant, on inverse la peine de mort et les femmes. Au Colorado, le vote des femmes, Paris, 1893, 51 avant les Français, et en RIC, la Suisse, sur la peine de mort, 1938, donc ça fait 43 ans avant la France. Donc en fait, selon les enjeux, tu peux être très à l'avance ou très en retard par rapport à un autre pays qui a le RIC ou non d'ailleurs. Mais ce qui est important, c'est que, et en France d'ailleurs, il y a des bonnes raisons de croire que la peine de mort aurait pu être... Il a fallu beaucoup avancer avec RIC parce que c'est toujours le Sénat qui bloquait. Dans les années 30, quand il y a eu le Front Populaire, il était pour le vote des femmes déjà, contre la peine de mort. Et c'est le Sénat qui bloquait.
Quand tu parles du vote des femmes dans l'État américain en 1993 et qui a été remis en place un an après, il a été, le vote des femmes a été décidé par une assemblée de type RIC.
Non. Pas d'assemblée, hein.
Par un RIC. Et est-ce qu'il a été réinstauré? Enfin.
Non, le vote des femmes n'a pas été touché. Sauf qu'il y a deux étapes. Aux États-Unis, chaque État peut décider lui-même. Et après, il y a une décision fédérale. La décision fédérale, c'était en 1920, le vote des femmes aux États-Unis. Mais les États, il y en avait qui avaient le vote des femmes depuis longtemps. Justement, le Colorado, ça faisait 30 ans qu'il avait déjà, les femmes avaient le vote au niveau de l'État. Mais au niveau fédéral américain, il n'y avait pas encore. Et ce qui est marrant, c'est que les plus tardifs sur le vote des femmes ont été ceux qui n'avaient pas le RIC. Et notamment l'État de New York, où il y a eu une pétition énorme, beaucoup plus grande que celle qu'il y avait eu au Colorado, en Californie, là où le vote des femmes existait déjà, par RIC, et à New York, elle n'a pas été prise en compte parce qu'il n'y avait pas de RIC. Une énorme pétition qui a, au début de 1903, on n'a rien fait et ils ont été forcés en 1920, quand presque tous les autres États l'avaient, de l'accepter. Donc en fait, il y a des cas comme ça où c'est évident que le RIC permet d'accélérer, mais il y a d'autres cas où au contraire, ralentit parce que les gens sont encore conservateurs en fait.
Je peux compléter ce que tu dis sur la transformation, parce que c'est... en fait, je ne suis pas sûre que je suis d'accord de dire que le RIC n'est pas un instrument... pour obtenir des... ou pour faire du changement social, je ne sais pas comment tu l'as dit. Le RIC, il produit des décisions qui sont conformes à ce que souhaite la majorité. Donc, si la majorité, elle est conservatrice, le RIC sera conservateur. Aux États-Unis, quand la majorité est favorable à la peine de mort, les RIC passent sur la question de la peine de mort joyeusement. Donc, ça n'empêche pas... C'est un outil pour mener des luttes sociales, mais ça ne va pas empêcher de mener des luttes sociales sur c'est quoi nos prochains droits. Comme ce qu'on disait hier, le suffrage féminin n'est pas le, n'a pas, on ne s'est pas dit, on arrête tout, l'émancipation de la femme c'est fait, c'est terminé. On s'est dit, bon, bah, on a cet outil-là, nouveau droit, mais il y a une émancipation aussi à mener dans la vie. Par contre, ce qu'on sait, c'est que ça produit des effets sur les gens individuellement et sur leur engagement politique individuel qui sont extrêmement forts. Donc si on parle de changement social, ça dépend dans la société dans laquelle on veut vivre, mais oui, c'est sans appel. Les personnes qui vivent sous le RIC sont plus compétentes en politique et la compétence s'exprime comme, on la mesure comme, est-ce que tu es capable d'expliquer pourquoi tu votes d'une certaine façon. C'est capable de donner juste des raisons, d'articuler
plus impliqués,
beaucoup plus d'associations, c'est-à-dire un tissu, ce qu'on appelle le capital social. On dit souvent oui, mais les lobbies, en fait, les lobbies, le pouvoir qu'ils ont sur l'initiative, c'est qu'ils sont très forts pour couler une initiative. C'est-à-dire qu'ils peuvent utiliser le pouvoir médiatique pour couler. Mais pour faire des propositions, et ils le font aussi aujourd'hui. C'est-à-dire, les lois aujourd'hui, ils le font, ils coulent les décisions qui ne leur vont pas. Assez fort. Et surtout, je pense qu'il y a un élément qui est important, et j'ai vraiment regretté qu'hier on puisse pas en parler, c'est que le RIC, c'est un instrument, c'est une évolution, mais c'est quand même un instrument hyper, hyper radical. Et d'ailleurs, les groupes les plus radicaux sont en soutien, sont beaucoup plus satisfaits de leur système politique sous RIC qu'ils ne le sont en France. Et rien que ça, ça veut dire que si des personnes de type qui ont des opinions minoritaires se sentent quand même avoir le pouvoir de pouvoir mettre ce qui les intéresse à l'agenda et de pouvoir avoir cet outil pour mettre une question à l'agenda, la question par exemple de la décroissance, la question de la sortie du capital, la question de l'islam politique, la question, et ben ça fait des systèmes qui sont qui permettent à chacun d'avoir en fait individuellement plus de droits. Et ça, je trouve que c'est quand même en termes de progrès social, c'est important, quoi. C'est pas minoré. Même si ça va pas toujours dans la direction que individuellement.